Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast, planifier ton année. Chaque année, tous les ans, à cette même époque, il y a deux choses qui reviennent. La première, c'est Maria Carré, et la deuxième, c'est le bilan et la planification de l'année qui suit. On est donc en plein dedans et j'ai voulu prendre un petit peu d'avance cette année pour te permettre de pouvoir faire finalement ce bilan et la planification de ton année prochaine à ton rythme. C'est-à-dire que peut-être que tu prévois un mois de décembre calme et que tu as envie de te pencher un petit peu sur le bilan de ton année dès maintenant. Peut-être encore que tu as une fin d'année justement chargée. Du coup, ça va être un petit peu la course au mois de décembre et j'avais pas forcément envie de te proposer cet épisode de podcast avant, par exemple, la trêve de Noël. Donc l'idée, en fait, c'est que il est là, il est à ta disposition et tu peux venir faire ton bilan et planifier ton année au moment où tu le souhaites. Donc dès maintenant, avant tes vacances de Noël, pendant tes vacances de Noël, si c'est un exercice que tu apprécies de faire et que tu aimes le faire quand justement t'es pas dans l'euphorie de ton activité quotidienne, ou encore tu pourras même venir reprendre cet épisode au mois de janvier. En tout cas, il est là, il est à ta disposition et du coup tu peux faire les choses vraiment quand tu le veux. Je vais te proposer cet épisode en ce sujet en deux épisodes, donc aujourd'hui, on va faire le bilan de ton année parce que l'une des erreurs qu'on fait le plus souvent, effectivement, c'est de se dire « qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine ?» et on en oublie finalement de faire le point sur l'année qui vient de s'écouler. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et dans la deuxième partie de cet épisode, donc qui sortira jeudi prochain, eh bien, je vais t'accompagner pour le coup à vraiment planifier ton année. Donc 2023, tant en termes d'objectifs que de projets. Donc aujourd'hui, on va effectivement faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. On va à la fois faire un bilan financier, faire le bilan de tes offres, donc c'est-à-dire ce que tu vends et ce qui te rapporte du chiffre d'affaires. On va faire un bilan stratégique, donc là on rentrera plus en détail dans ta stratégie d'acquisition client, donc probablement une partie de ta communication. On parlera aussi de ta stratégie de conversion, donc comment tes prospects passent de prospect à client finalement, et puis éventuellement, enfin aussi de ta stratégie de fidélisation. On passera aussi par un bilan bien-être, c'est important de se poser quelques questions. Et enfin, donc une fois qu'on aura fait ce bilan, eh bien on pourra passer à l'étape d'après, planifier ton année. Alors, on est parti. Ça va franchement être un épisode digne d'une masterclass. C'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais pu partager en atelier ou en masterclass. Donc évidemment, si tu as la possibilité de prendre de quoi noter, c'est mieux. Je pense que tu as de quoi griffonner. Sinon, tu peux aussi te familiariser avec cet épisode avec une première écoute. Et puis, comme ça, tu sais ce qui t'attend et tu pourras y revenir le moment venu. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est un petit peu commencer par la did list, c'est-à-dire regarder dans le rétroviseur tout ce que tu as fait sur ces 12 derniers mois. Si t'es pas habitué à prendre régulièrement le temps de noter tes accomplissements, de t'ancrer dans tes réussites, de les célébrer, eh bien ça va être l'occasion pour toi de un petit peu rebalayer ton agenda pour essayer de te rendre compte et de venir lister tout ce que tu as fait tout ce que tu as mis en place, toutes les opportunités peut-être que tu as eues, alors en bien et en moins bien peut-être, hein, mais vraiment tout ce que tu as fait sur ces 12 derniers mois. Donc effectivement, pour faire cet exercice, alors peut-être que tu tiens un journal de bord, mais sinon tu peux tout simplement rebalayer ton agenda. Et puis, une autre petite astuce aussi que j'aime bien faire, c'est... peut-être que l'année dernière, tu avais déjà fait un bilan et planifié ton année. Peut-être que tu t'étais déjà fait une liste justement de choses que tu voulais faire sur cette année. Je t'invite éventuellement aussi à la reprendre et du coup à mettre en même temps en perspective au fil des mois ce que tu avais envie de mettre en place cette année et si tu l'as fait ou pas. Donc ma proposition pour ça, c'est vraiment de le faire mois par mois, hein, donc reprendre janvier 2022, février 2022, mars 2022 ou toute autre année si tu écoutes cet épisode à un autre moment, et de faire ça en fait jusqu'à aujourd'hui, donc peu importe la date à laquelle tu fais ton bilan, mais en tout cas voilà, de faire ça sur en gros les 12 derniers mois. Ok, donc ça c'est vraiment le premier exercice, hein. Donc soit tu mets pause et tu le fais au fur et à mesure, soit effectivement tu te mets ces cases mois par mois et puis tu y reviendras. Donc le premier bilan qu'on va faire, c'est un bilan financier. Alors je suis consciente que peut-être que tu mets pas souvent le nez dans tes chiffres ou que t'es peut-être pas encore très organisé en termes de suivi de ton chiffre d'affaires. Donc je vais quand même te donner des pistes pour faire ce bilan. Et quelque part, ça peut être aussi pour toi justement des choses à te mettre de côté et à te prévoir de mettre en place pour l'année prochaine justement. Donc effectivement, ce bilan financier, il est plus facile si déjà tu as un tableau de suivi de tes finances. Et donc déjà à partir de là, si c'est quelque chose que tu n'as pas, je t'invite rapidement à le mettre en place. Tu peux aussi te faire accompagner par une assistante administrative par exemple. Mais c'est super important d'avoir un tableau de suivi, un endroit où tu viens mettre à jour effectivement évidemment toutes tes recettes, et ça normalement tu es obligé de tenir un livre de recettes, donc j'imagine que tu as quand même quelque chose par rapport à ça, mais les finances c'est pas que le chiffre d'affaires qui rentre, et puis si tu es en société il y a aussi les dépenses, enfin même si tu n'es pas en société d'ailleurs c'est quand même important de regarder là où tu mets ton argent, donc voilà, avoir un tableau de suivi de tes finances c'est déjà extrêmement important, et donc mon premier conseil, ma première recommandation, au-delà d'aller tout de suite regarder ton chiffre d'affaires, c'est aussi d'étudier tes dépenses. Alors ça me fait sourire parce que j'ai une réunion prévue avec mon assistante pour faire le point là-dessus cette semaine. Mais voilà, tu le sais très bien, aujourd'hui, on s'abonne à plein d'applis, à plein de logiciels. On achète des trucs à droite, à gauche. Des fois, je pense qu'on ne sait même plus finalement ce qu'on paye parce que c'est tellement des petites sommes mensuelles ou autres. Et la question, c'est un petit peu de recenser tout ça, donc en allant regarder aussi tes relevés de compte, et de te poser la question si est-ce que tu utilises encore tout, est-ce que tu as besoin vraiment de tout ça, est-ce que tout est vraiment utile, de quoi tu peux te passer. Et puis à l'inverse, il y a peut-être aussi des choses, tu sais, auxquelles tu t'es abonné mensuellement et finalement tu en as vraiment besoin dans ton activité, ou c'est quelque chose qui t'accompagne vraiment dans ton quotidien, et du coup c'est peut-être le moment de basculer sur un forfait annuel. Je pense par exemple à un abonnement Zoom ou même ça peut être sur un autre type d'outil. Au début où tu as été prévenante et puis tu as pris l'abonnement mensuel pour voir, et puis finalement tu te rends compte que tu t'en sers toute l'année, ou en tout cas tu payes l'abonnement tous les mois et tu penses continuer à t'en servir l'année prochaine. Donc dans ce cas-là, ça peut être plus intelligent de basculer sur un forfait annuel. Donc ça déjà, c'est un petit peu de boulot à faire. Sur cet aspect du coup dépenses, et vraiment mettre le nez dedans, c'est super important. Le deuxième point, ça sera effectivement d'aller voir le chiffre d'affaires que tu as encaissé, donc là pour le coup vraiment toutes tes rentrées d'argent. Alors je rentre pas dans le débat TVA, hors TVA, etc. Ça dépend, enfin c'est pas que ça dépend, en général on regarde son chiffre hors TVA, mais ça je te laisse voir là où tu en es aujourd'hui par rapport à la TVA de toute façon. Je te laisse regarder ça. Moi, je parle de chiffre d'affaires, de tout ce qui est rentrée d'argent. Alors, si tu le peux, je trouve que ça, c'est hyper important à faire, c'est de regarder tes rentrées d'argent par offre. Ok, donc par exemple, si tu donnes plusieurs cours en présentiel dans, je sais pas, différents studios, différents endroits, si tu as plusieurs offres en ligne, si tu fais du coaching one-one, si tu interviens dans des yoga teacher training, enfin peu importe, de regarder en fait, tu sais, comme un camembert, quoi, la répartition de ton chiffre d'affaires par format, on va dire, d'offres. Ok, donc ça pour moi c'est extrêmement important parce que ça peut déjà te permettre de mettre le doigt sur peut-être des choses qui te prennent beaucoup de temps et qui sont pas rentables, mais voilà, il y aurait une bonne raison de la garder et de le développer, ou à l'inverse, une bonne raison peut-être de mettre ça de côté et de prendre la décision d'arrêter. Donc après tout ça dépendra aussi de voilà comment tu te sens par rapport à ces offres, mais des fois on continue à mener enfin à faire un cours par exemple, alors qu'en fait c'est un cours qui est loin de chez toi, qui te rapporte pas beaucoup. Ok, t'y prends du plaisir parce que t'es prof de yoga, c'est ton métier, ça te plaît, mais bon, pas plus que ça. Et finalement, arrêter ce cours-là pourrait te permettre par exemple de développer un programme en ligne sur le nombre d'heures du coup que tu pourrais consacré à ça. Et du coup, ça fait peut-être partie des choix que tu feras pour l'année prochaine. Donc, on va regarder effectivement ce CA encaissé réparti par offre. Alors, je dirais même, hein, pour les plus comptables d'entre vous, vous pouvez aussi aller étudier les rentrées de chiffre d'affaires, peut-être par rapport à les opérations commerciales que vous avez menées dans l'année. Donc, si vous avez fait des lancements, ou au contraire, si vos offres, elles sont été en evergreen toute l'année, vous pouvez peut-être identifier aussi une certaine saisonnalité. Donc, quel mois, par exemple, j'ai eu le plus d'abonnements dans mon membership, dans mon studio en ligne, quel mois j'ai eu le moins d'abonnements. Donc, vraiment, tout ce que vous pouvez analyser et repérer, ça peut être intéressant. Donc, chiffre d'affaires par offre. Chiffre d'affaires en termes de saisonnalité. Si vous arrivez à identifier, si c'est quelque chose que vous suivez, quel client a consommé quelles offres. Et puis donc la saisonnalité, je l'ai dit, et effectivement selon vos modes de lancement. Tiens, quand j'ai fait un lancement par challenge par exemple, j'ai converti X clients. Versus quand j'ai fait mon evergreen, finalement ça m'a rapporté peut-être autant de chiffre d'affaires que lorsque j'ai fait un lancement. Donc voilà, ça peut être de venir aussi étudier tout ça. Si vous n'avez pas ce niveau de détail, c'est pas grave. Donc le CA encaissé, les frais que vous avez eu, donc vos dépenses, et effectivement du coup c'est intéressant de faire un point aussi sur les bénéfices, hein, donc sur ce qui reste. Alors les frais, c'est vos dépenses, mais c'est aussi éventuellement, hein, voilà, tous les charges, les cotisations, les impôts, etc. Et donc in fine, finalement, qu'est-ce qui reste dans ma poche? Et puis là, j'ai quelques petites suggestions à vous faire. Donc mon premier point, c'est: est-ce que vous mettez aujourd'hui de l'argent en trésorerie chaque mois? Même si c'est un petit montant, même si c'est 10 euros, 15 euros, peu importe, c'est de prendre l'habitude de se dire, ok, tout ce que mon entreprise gagne comme argent, en fait, c'est pas forcément mon salaire. Alors, je sais que des fois, au début, hein, on gagne des petites sommes, mais c'est de prendre l'habitude de mettre un petit peu de trésorerie de côté, ce qui pourra permettre de temps en temps, voilà, d'investir dans du matériel, dans une formation, pourquoi pas, ou autre, mais de prendre le réflexe de vous constituer ce capital. Donc, est-ce que vous le faites aujourd'hui? Si oui, combien vous avez mis en trésorerie? Et sinon, ou quelle est votre trésorerie actuelle? Et sinon, peut-être aussi, ça fait partie des petites choses à vous noter, des bonnes habitudes à prendre pour l'année prochaine. Et idem, est-ce que vous vous versez un salaire? Et là aussi, je vous conseille de prendre cette habitude. Alors, surtout que c'est un peu déstabilisant, parce que quand on est auto-entrepreneur, on a un peu accès à son argent comme ça, comme on veut. Et à contrario, finalement, quand on passe en société, les choses sont beaucoup plus cadrées, parce que du coup, on doit définir aussi un salaire. Et du coup, je trouve que c'est pas mal de prendre l'habitude de le faire tout de suite. Et encore une fois, même si ce salaire, il est tout petit, tout riquiqui au début, parce que vous êtes au début de votre activité, parce que voilà, c'est pas votre activité, elle décolle pas encore, etc. Eh bien, même prendre l'habitude de vraiment matérialiser cet argent que vous vous versez, c'est extrêmement important. Évidemment, je vous conseille aussi, hein, d'avoir un compte pro pour votre business, tout simplement. Alors moi, aujourd'hui, j'utilisais Konto, une banque en ligne, et puis comme je passe en société, je pense que je vais me rapatrier sur ma banque classique avec un compte pro, ce qui coûte un petit peu plus cher, mais voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est hyper important que tout ce qui est lié à votre business, ça soit sur un compte bien différent de votre compte perso, en fait. Donc voilà, je vous invite aussi un petit peu à regarder ça et à faire le point. Je m'arrêterai là pour le bilan financier et je vous propose de passer sur le bilan de vos offres. Ok, donc vos offres égale tout ce que vous vendez. Donc le sujet ici, c'est quelles sont vos différentes offres aujourd'hui. Donc c'est vraiment de recenser toutes les différentes offres que vous avez et que vous vendez aujourd'hui. Donc par exemple, moi je pourrais mettre, j'ai Yogi Bizline, j'ai les lectures en Human Design, j'ai le Mastermind The Trigger, j'ai des coachings individuels, j'ai plusieurs formules en individuel, j'ai l'atelier Canva, j'ai le Summer Camp podcasting, j'avais le Yogi Biz, enfin le Yogi Challenge Pack qui peut encore se vendre. Enfin voilà. Donc quelles sont les différentes offres que vous avez aujourd'hui? Je suis aussi, je vais intervenir dans des formations, par exemple, c'est un poste d'offre un peu différent. On pourrait mettre une casquette de consulting, par exemple. D'ailleurs, j'ai des offres en consulting aussi, par exemple. Donc voilà, quelles sont vos différentes offres aujourd'hui? De manière aussi à vraiment à revenir un peu sur vos offres, je vous invite à faire l'exercice de résumer de résumer chacune de vos offres. C'est-à-dire, elle sert à quoi, elle est pour qui, c'est quoi son objectif, ok? Donc, comme on l'a vu dans le point précédent, idéalement, c'est important ici de regarder comment se répartit votre chiffre d'affaires sur ces différentes offres. Et effectivement, de venir faire le point aussi, est-ce que ces différentes offres sont claires? Donc, c'est pour ça que je vous invite à les résumer à vous-même, c'est-à-dire, est-ce que les caractéristiques, elles sont claires? Est-ce que les modalités de mes offres sont claires? Est-ce que les tarifs de mes offres sont lisibles, sont clairs? Déjà, le premier exercice que vous pouvez faire, c'est de faire ça de tête, en fait, pour voir si même pour vous, finalement, c'est... c'est un réflexe, c'est acquis. Est-ce que le choix entre les différentes offres pour vos clients, il est clair, il est explicite, il est bien expliqué, peut-être dans les FAQ de vos offres, peut-être dans la manière dont vous les présentez. Et du coup, c'est aussi le moment de se poser la question, qu'est-ce que je peux clarifier par rapport à tout ça. Donc peut-être que vous allez déjà avoir des idées, que vous allez pouvoir vous noter, de dire, là, sur le site, il faut que je fasse la refonte de tel truc, ou il faut que je rajoute en FAQ, c'est quoi la différence entre tel programme, et ainsi de suite. Évidemment, on va aussi venir se poser la question de comment ces offres s'articulent entre elles. Donc vous savez, moi je suis une grande fan de la suite logique des offres, d'avoir une suite d'offres logique et cohérente pour encourager la fidélisation de vos clients plutôt qu'avoir à chercher toujours de nouveaux clients, même si l'un n'empêche pas l'autre. Mais donc est-ce que la diversification de vos offres finalement, elle est logique? Est-ce qu'elle s'articule d'une manière cohérente? Est-ce que il y a une progression peut-être par exemple pour vos clients dans soit l'apprentissage de quelque chose, soit la maîtrise de quelque chose, soit la complémentarité des formats, des formules, ok? Et est-ce que tout ça mélangé, c'est compréhensible? Ok, donc ça c'est extrêmement important. Et bien évidemment, puisque il y a toujours forcément la question de est-ce que ces offres me permettent d'être rentable finalement. Donc là, après, c'est à vous de voir justement entre la partie bilan financier et la partie bilan de vos offres. Est-ce que mes offres actuelles me permettent d'être rentable? Ensuite, le dernier point, j'ai envie aussi de vous interroger sur quelles sont les offres dans ce que je propose aujourd'hui, donc soit vos cours, soit vos offres en ligne, vos retraites, vos ateliers, vos interventions, peu importe, quelles sont vraiment les offres, les choses, les cours qui vous font vibrer? Et inversement, quelles sont les offres dont finalement vous pourriez vous passer, vous n'y êtes pas attaché pour X ou Y raison? Alors, ce travail, il est difficile parce qu'il demanderait à être creusé. Attention à pas... mais les élèves, ils seraient trop déçus si j'annulais ce cours-là. C'est pas vous que ça fait vibrer. C'est peut-être un ou deux élèves qui aiment tellement votre cours qu'en fait, vous vous sentez obligé de donner ce cours-là pour ces élèves-là. Mais en fait, ça vous fait pas forcément vraiment vibrer vous. Et donc, en fait, vous mettez votre énergie au service des autres. Alors, dans une certaine mesure, ça va. Mais la priorité, c'est quand même que ça vous fasse vibrer à vous. Et donc, quand vous vous posez la question quelles sont les offres dont je pourrais me passer, l'idée c'est de se dire bah, à la place de ça, je pourrais faire autre chose, hein, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, et c'est vraiment vous que ça concerne, c'est pas ce que disent les autres, ce que veulent les autres, ce que vont penser les autres, etc. Vraiment, je vous demande de vous concentrer sur vous. Et puis enfin, je dirais comment vous pourriez du coup simplifier tout ça pour gagner en temps et gagner en énergie l'année prochaine. Est-ce que déjà de ce premier brainstorm un petit peu sur vos offres, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se dégage, qu'il y a une incohérence, qu'il y a un trou peut-être dans vos offres, qu'il y a quelque chose qui vous prend trop d'énergie, effectivement que vous avez vraiment fortement envie d'arrêter. Alors après peut-être que vous posez des questions parce que bah oui mais si j'arrête ça, je vais perdre de la rémunération, etc. Mais voilà, déjà peut-être que vous avez commencé à mettre le doigt sur certaines choses ou à comprendre et à vous dire non mais effectivement c'est un peu le flou, c'est un peu le brouhaha, comment je peux déjà me dire que tiens là je vais devoir bosser là-dessus pour simplifier ça ou supprimer, gagner en temps, etc. Et de la même façon, pour la partie rentabilité, bah, c'est est-ce qu'il manque quelque chose justement dans vos offres là qui pourrait vous permettre finalement d'optimiser vos revenus. Donc c'est la question de qu'est-ce qu'il y a en trop ou qu'est-ce qui est pas clair et qu'est-ce qu'il y a à revoir finalement et qu'est-ce qui peut me manquer pour à l'inverse peut-être aller optimiser tout ça. Maintenant, on va passer au bilan stratégique. Alors, le bilan stratégique, c'est assez dense puisque pour vous imager le bilan stratégique, l'idée, c'est un petit peu donc le triangle à l'envers, hein, l'entonnoir. Donc, comme je le disais en introduction, le bilan stratégique, c'est vos stratégies, donc à la fois d'acquisition, de prospects, comment les gens vous découvrent et vous connaissent. Et ensuite, bah, comment donc vous venez réchauffer cette audience jusqu'à votre stratégie de conversion, donc comment les gens passent de « je vous connais, je vous suis » à « j'achète chez toi », donc de prospect à client. Et puis, dans un dernier lieu, effectivement, les stratégies aussi de fidélisation qu'on a tendance à mettre un peu de côté parfois. Alors après, ça dépend de la maturité de notre business et de où on en est. Évidemment, si vous venez juste de commencer, vous n'en êtes peut-être pas encore à l'aspect fidélisation, mais c'est quand même intéressant de relever les choses à anticiper là-dessus. Et puis, bah, si vous avez déjà un business depuis plusieurs mois, plusieurs années, ça peut être intéressant d'aller explorer aussi ce système de fidélisation. Donc, on imagine qu'on a un petit peu ce triangle, là, cet entonnoir finalement. Et donc, on a bah, en haut le premier pôle qui est finalement la découverte, hein, comment on vous découvre et donc quelles sont les stratégies que vous utilisez finalement pour vous rendre visible. Ok, ça c'est le premier pôle. Ensuite, on a le deuxième pôle qui va être le pôle d'intérêt. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour créer du lien avec les gens qui vous découvrent. On a effectivement le pôle conversion. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour convertir vos prospects en clients. Et enfin, on a le pôle fidélisation. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour fidéliser et chouchouter vos clients. Donc, faire le point sur le bilan stratégique, c'est un petit peu faire le point sur tout ça. Donc, pour le pôle découverte, eh bien, ma première question assez simple, hein, c'est de vous poser la question, quels sont les canaux que j'utilise aujourd'hui pour me rendre visible ? Ok, donc de voilà, lister où est-ce que vous êtes présente dans, pour vous rendre visible au commun des mortels, j'ai envie de dire au reste du monde. Ensuite, c'est est-ce que ces canaux, ça fonctionne pour vous ? Donc, c'est de venir faire le point sur comment a évolué finalement votre visibilité sur ces différents canaux, sur ces différents réseaux que vous utilisez. Alors là, vous avez plusieurs indicateurs qui peuvent vous permettre de faire le point là-dessus. Ça peut être effectivement votre nombre d'abonnés. Ça peut être... Alors ça, peut-être que vous ne le suivez pas dans le détail aujourd'hui. Vous n'avez peut-être pas un CRM très abouti, un CRM, un suivi de clients, etc. Mais ça peut être... Est-ce que vous avez des contacts réguliers, on va dire, par exemple, est-ce qu'on vient régulièrement échanger ou vous poser des questions sur vos offres, par exemple en DM. Ça peut être le nombre de vues aussi que vous avez sur vos stories. Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement? Moi, je fais beaucoup de stories, donc je regarde beaucoup ça. Donc sans regarder dans les détails, mais effectivement, je me rends compte que mon nombre de vues en story, il a clairement explosé. Et je pense que c'est finalement là où on préfère le contenu que je partage. Alors évidemment, en dehors du podcast, etc. Mais voilà, les posts, c'est très bien. Mais je pense que voilà, on vient plus me trouver en story. Puis de toute façon, ça correspond plus aussi à nos modes de consommation des réseaux, donc c'est assez logique, mais je vois vraiment une évolution flagrante, entre guillemets. Si vous avez un site internet aussi, hein, le site internet, quelque part, c'est un canal que vous utilisez pour vous faire découvrir, ça peut être intéressant, là aussi, d'aller voir comment votre visibilité, elle a évolué cette année. Donc, quelles sont les pages, par exemple, le nombre de visiteurs que votre site a eu, les pages les plus vues, peut-être. Voilà, tout ça, ça peut être intéressant à creuser. Donc, après, c'est propre à chacun d'aller voir tout ça. Évidemment, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui me ramène le plus de résultats et qu'est-ce qui finalement a le moins fonctionné. Concernant ce qui nous ramène le plus de résultats, c'est en général, on le voit assez facilement. Concernant ce qui a le moins fonctionné, la question suivante, c'est de se demander pourquoi ça a moins fonctionné. Et là, du coup, il va s'agir d'être vraiment très honnête avec soi et avec, de pas dire c'est de la faute de l'algorithme. En fait, ça marche pas. Vous pouvez exclure ça de votre bilan. Ok, donc c'est plutôt peut-être que effectivement, vous n'avez pas particulièrement fait de format vidéo, admettons, alors que effectivement c'est peut-être un format qui est assez plébiscité aujourd'hui, donc ça pourrait être un point d'amélioration. Donc vraiment, comment vous évaluez l'efficacité de votre production de contenu? Donc ça aussi, c'est intéressant d'aller voir quels sont les contenus qui ont été les plus appréciés sur vos différents réseaux sociaux, si vous en avez plusieurs. On va dire par exemple sur Instagram, hein, vous pouvez aller voir dans les statistiques qu'est-ce qui a le plus fonctionné. Donc en interaction, en enregistrement, en commentaire, vous pouvez regarder plusieurs indicateurs. L'idée, c'est pas de faire un tableau Excel à 50 millions de cases. L'idée, c'est juste d'aller regarder les tendances, d'aller regarder la masse, hein. Voilà, je ne suis pas là pour vous faire un bilan dans les moindres détails, mais d'aller regarder les grandes tendances, d'aller regarder ce qui se dégage, d'aller regarder la masse, encore une fois. Donc, c'est quoi qui est le plus apprécié? C'est quoi qui fonctionne le moins bien? Et évidemment, on capitalisera peut-être sur ce qui a été le plus apprécié, voire même on recyclera ces contenus versus si les citations, ça ne marche plus sur votre compte, peut-être que les citations, on va les mettre en stand-by pour l'année prochaine et c'est complètement OK. Donc, globalement, ce qu'on vient chercher là, c'est quoi les points faibles aujourd'hui de ma stratégie de visibilité et à l'inverse, qu'est-ce qui a fonctionné, que je vais pouvoir garder, voire améliorer et capitaliser. La question aussi, c'est peut-être qu'il y a finalement un canal de visibilité qui va sortir du lot, un ou deux. Et donc, à un moment donné, c'est aussi... est-ce que finalement je ne garde pas que, lequel sort du lot et donc c'est peut-être sur celui-là qu'il va falloir miser 100% l'année prochaine. Donc voilà, vraiment c'est faire un petit tour complet de vos canaux finalement, des canaux que vous utilisez pour vous rendre visible et puis de regarder un peu ce qui se passe. À la louche, quand on va creuser sur les statistiques, etc., forcément, vous arriverez à dégager de grandes tendances. Si, encore une fois, vous êtes honnête quand vous faites ce travail, vous allez très bien voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Évidemment, tous les indicateurs clés de visibilité, vous pouvez les relever, parce que ça peut être intéressant justement pour votre bilan des mois prochains, des trimestres prochains ou de l'année prochaine. Donc du coup, des indicateurs clés sur les réseaux sociaux, c'est par exemple votre nombre d'abonnés. C'est par exemple votre croissance par mois, mois par mois. C'est par exemple votre nombre de publications, les publications qui ont mieux le marché, comme on a dit. Votre nombre moyen de vues en story, vous pouvez le regarder sur les statistiques aussi. Donc tous les indicateurs finalement qui peuvent vous apporter une progression. Si c'est votre site internet, bah là, via Google Analytics, vous pouvez avoir pareil le nombre de pages vues, les pages les plus vues, la durée que les gens restent voilà, sur votre site. Vous pouvez avoir des cartes de chaleur là qui peuvent indiquer le parcours de l'utilisateur ou là où il reste le plus longtemps concentré. Vous pouvez avoir des indications sur le taux de rebond. Alors moi, je suis pas spécialiste en site internet. Hein, d'ailleurs, ça fait partie des analyses qu'il faut que je fasse aussi. Voilà. C'est Google Analytics qui peut vous donner tout ça. Et puis après, bah pareil, hein, il y a les autres médias aussi. Moi, par exemple, j'utilise le podcast. Donc, bah, je vais regarder mes écoutes de podcast. Je vais regarder le temps d'écoute. Je vais regarder... Enfin, si vous avez une chaîne YouTube, ça peut être pareil, le temps de... Le nombre de vues de vos chaînes, la croissance de votre chaîne, pardon, la croissance de vos abonnés, le temps de visionnage. Et quand je disais tout à l'heure, après, à un moment donné, c'est d'être honnête vis-à-vis de vous et dans votre stratégie de contenu, bah, si effectivement vos abonnés ou votre nombre de vues, il n'y a pas vraiment de croissance, mais qu'en réalité vous avez posté de manière très très irrégulière, voilà, que vos vidéos, bah, vous n'avez pas forcément respecté de stratégie ou autre, bah, c'est peut-être un petit peu normal aussi que ça ne fonctionne pas. Donc c'est savoir faire un point réaliste, quoi, en fait, hein. Ce qu'on peut intégrer aussi dans cet aspect découverte et visibilité, c'est si vous avez fait des actions médias, des actions de visibilité du type faire une masterclass pour quelqu'un, partager un atelier, faire un live sur Instagram, être interviewé sur un podcast ou recevoir un invité sur votre podcast à vous. Voilà, vous pouvez aussi faire le point là-dessus, c'est-à-dire sur les événements peut-être auxquels vous avez participé ou vous avez créé ou voilà, que vous avez organisé, qui ont généré peut-être pour vous plus de visibilité, plus de nouveaux abonnés, plus de contacts, etc. Ou des invitations à des événements, des conférences, des choses comme ça. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie hein, de la visibilité, du plan visibilité. Donc ça, c'est quand même aussi un dossier qui est assez dense, mais qui est super important pour l'année prochaine, sur quoi vous concentrez vos efforts. Alors ensuite, on a la stratégie d'intérêt. Ok, donc là on est toujours un petit peu, enfin on est entre les deux en fait, hein. On est entre la stratégie d'acquisition client, donc quelque part comment je me fais connaître, comment je me fais découvrir, et on est avant la stratégie de conversion. Et justement la question c'est comment je crée le lien entre les deux, c'est-à-dire quelqu'un qui me découvre finalement, comment petit à petit je lui fais faire le parcours hein, pour qu'il aille jusqu'à avoir envie ou travailler avec moi. Donc en gros, c'est comment je transforme mes visiteurs finalement, mes visiteurs, un public, je pourrais dire presque une audience en communauté en fait, hein, ou comment je transforme mes visiteurs finalement vraiment en ce que je pourrais qualifier de prospect. Et comment je fais pour amener ces visiteurs finalement à interagir avec moi, à entre guillemets consommer mon contenu, à avoir envie d'en savoir plus, etc., etc. Donc, par exemple, tout à l'heure, je parlais du site internet. Est-ce que mon client, quand il arrive sur mon site, est-ce que les choses sont organisées et optimisées de manière à ce que, par exemple, tout de suite, il comprenne qu'il peut s'inscrire à une newsletter? Est-ce que si je fais des accompagnements one-one, j'ai peut-être un calendrier d'appels découvertes qui est en place et voilà, ça se voit, c'est clair, on sait ce qu'on a à faire. Est-ce que j'ai par exemple un formulaire de demande de contact? Voilà, donc ça peut être toutes ces petites choses-là en fait. Est-ce que mon site, il est bien prévu, clair et efficace pour que les gens, quand ils débarquent dessus, tout de suite, ils puissent avoir une option quelque part facile pour rentrer en contact avec moi? Et donc c'est aussi un petit peu la même chose finalement si vous êtes sur Instagram. Voilà, à partir du moment où votre client il arrive sur Instagram par exemple ou sur un autre réseau, hein, mais quel moyen il a finalement tout de suite de rentrer dans mon univers Autrement dit, si je pose la question différemment, c'est comment je le sors d'Instagram pour l'emmener vers un cadeau gratuit, vers un rendez-vous, vers une demande de contact, vers une offre, vers quelque chose d'autre à découvrir, ma newsletter par exemple aussi, ok ? Et donc, la question suivante, évidemment, c'est par quel moyen, finalement, je maintiens le lien avec mon audience, avec finalement ma communauté, mes prospects, chaque semaine. Donc, ça peut être par les stories, ça peut être par des lives, ça peut être par une newsletter, ça peut être par tout autre type de contenu. C'est à vous de voir ça, mais est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de maintenir du lien avec votre communauté chaque semaine ? Pour le coup, moi, cette année, c'est intéressant d'ailleurs, parce que j'ai pas eu vraiment de régularité à la fois sur ma newsletter, à la fois sur mon podcast. Alors là où je pense j'ai été clairement le plus régulière et le plus présente, même quand j'étais en teacher training pendant un mois, c'est les stories. Donc ça, c'est vraiment moi le truc que je garde en contact permanent. Mais finalement, j'ai quand même toutes ces stratégies qui sont en place et que j'ai. C'est vrai que j'ai été moins à fond sur tout en fait, mais ça correspondait à ce que j'avais envie pour cette année, à mon rythme de cette année, aux changements, à d'autres changements que j'ai eu dans ma vie cette année. C'était complètement adapté, donc voilà, c'est ok. Alors ça n'empêche pas que pour moi il y a des axes de progression par rapport à ça, à des choses à remettre en place finalement, sur lesquelles j'avais une très bonne régularité avant, et en même temps il y a aussi des choses où j'ai plus forcément envie de créer du contenu, même si j'avais une vraie stratégie de contenu derrière, mais d'être omniprésente surtout, je trouve ça pour ma part étouffant, même si il y a beaucoup de sujets qui sont toujours très intéressants. Et qu'en général, quand on suit quelqu'un, c'est qu'on est très intéressé par le sujet. Mais aujourd'hui, il y a tellement, tellement, tellement de contenu que ça peut être aussi, de venir devenir un petit peu doser tout ça. Donc, évidemment, concernant le lien avec sa communauté, il y a quand même, l'emailing reste un incontournable quand on a un business. Je vous renvoie d'ailleurs, si vous le souhaitez, à la masterclass gratuite que j'avais fait, que vous pouvez trouver sur ma bibliothèque privée. Il y a les notes, il y a le lien dans les notes de cet épisode pour vous inscrire. Il y a une masterclass vraiment qui est hyper complète sur l'emailing où je vous explique tout par rapport à ça. De vous poser la question, quelle est ma stratégie pour récolter des emails, ok ? Donc ça, c'est super important parce qu'encore une fois, les emails, c'est vraiment votre base de données clients et c'est ce qu'il y a de plus important dans votre business. Désolée pour le petit bip du message qui a retenti. Quelle est votre stratégie avec votre newsletter, du coup ? Est-ce que justement, vous arrivez à envoyer régulièrement du contenu et est-ce que ce contenu, il est pertinent ? Donc encore une fois, je vous parle de tout ça dans la stratégie d'emailing, mais un contenu pertinent pour moi, c'est effectivement une newsletter, un sujet, un appel à l'action, et forcément ça répond à vos objectifs en fait que vous vous fixez, donc soit des objectifs de visibilité, soit des objectifs de conversion, soit des objectifs de développer peut-être telle chose ou telle chose. Mais voilà, dans quel but vous envoyez une newsletter ? Est-ce que vous l'envoyez avec régularité ? Et donc, c'est quoi votre stratégie avec ça ? Peut-être vous poser la question, justement, si tout ça est un peu obsolète ou irrégulier, de comment vous allez pouvoir renforcer ce lien avec votre audience. Ou alors peut-être vous posez la question de comment je qualifie ma relation avec mon audience. Est-ce que vous vous sentez proche des gens ? Est-ce que vous avez des échanges régulièrement ? Est-ce que ça peut être intéressant comme question, ça peut être quelque part un indicateur aussi pour justement dans un deuxième temps vous dire ok, comment je peux venir renforcer ce lien ? Comment je peux faire en sorte que mes prospects, mon audience ressentir qu'il y a vraiment une confiance qui est installée, qu'on ose venir vers moi peut-être, qu'on me pose régulièrement des questions ou autres. Donc ça peut être des quelque chose d'intéressant à observer, sur quoi se poser quelques questions. Ce qui va être important aussi dans cette partie de l'intérêt, c'est est-ce qu'on comprend vite ce que vous faites ? Donc c'est de mesurer si Parce que, évidemment, pour passer de la découverte à la conversion, bah, il faut qu'on comprenne rapidement ce que vous faites. Et il faut aussi, du coup, qu'on sache ce que vous vendez, ce que vous avez à proposer. Donc, est-ce que vous parlez régulièrement de vos offres dans votre contenu? Est-ce que ça se voit quand on regarde visuellement votre compte Instagram? Est-ce qu'on voit tout de suite là où sont vos offres, ce que vous proposez? Je ne sais pas, ça peut être des choses épinglées, ça peut être des visuels très explicites, ça peut être dans votre bio, peu importe, mais est-ce que dans vos stories permanentes aussi, sur votre site, pareil, est-ce que c'est clair? Est-ce que tout de suite, on comprend ce que vous faites en 3 secondes? Je faisais un audit justement d'un site l'autre jour dans Yogi Bizline, dans un coaching collectif, et voilà, en fait c'est tout bête, mais quand on se connectait au site sur l'écran qui s'affiche, on se connecte et la partie qu'on voit qui s'affiche quand on se connecte pour la première fois au site, on avait ni le nom finalement, enfin le prénom d'ailleurs de la personne, on voyait même pas finalement qu'elle était prof de yoga et dans le cas là naturopathe. Où est-ce qu'elle était en présentiel, dans quelle ville, on le voyait pas, mais aussi qu'elle était en ligne. Donc voilà, ça fait partie des informations. Voilà, est-ce que c'est très clair? Est-ce qu'on voit ça tout de suite? Et juste derrière, est-ce qu'on peut tout de suite se dire, moi j'ai ça à offrir, mes offres c'est ça. Si tu veux des ressources gratuites, c'est là. Si tu veux t'inscrire pour en savoir plus, c'est là. Donc vraiment ça, c'est faire le point sur ça et checker que si je viens de l'extérieur, ou vous pouvez poser la question d'ailleurs à quelqu'un, tiens, est-ce que tu peux me dire en regardant, mon site, mon compte Instagram ou mon compte Facebook, ou qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vends? Rien qu'en regardant en fait un petit peu visuellement, on va dire. Et donc encore une fois, l'idée c'est d'aller évaluer quelque part votre stratégie d'intérêt pour voir si c'est un sujet sur lequel il va falloir mettre l'accent l'année prochaine, ou alors si tout est OK et peut-être qu'il y a des choses évidemment à améliorer, à renforcer, mais que vous êtes déjà sur la bonne voie. Donc comment vous pouvez mesurer finalement tout ça? Alors c'est vrai que ça va être beaucoup lié finalement à vos abonnés, à votre contact email, donc votre nombre d'abonnés à votre newsletter et la croissance par mois à votre newsletter, votre taux d'ouverture aussi de newsletter peut être un bon indicateur, votre taux de conversion et de vente grâce à l'emailing si vous le mesurez. Vous pouvez regarder aussi donc dans vos ressources gratuites, qu'est-ce qui est téléchargé, pas téléchargé, toujours téléchargé si c'est quelque chose qui est un peu vieillot, puis surtout est-ce que vous en parlez encore, et donc peut-être c'est le moment un peu de faire le ménage, de faire le tri là-dedans. Si vous avez des inscriptions à votre newsletter, vous pouvez peut-être mesurer justement est-ce que vous avez des inscriptions via votre site par exemple, ou est-ce qu'à l'inverse vous avez les gens cliquent plutôt via votre compte Instagram. On vous laisse des avis, alors notamment si vous êtes thérapeute par exemple, vous avez un cabinet, vous êtes sur Google Maps ou quoi, est-ce que vous avez régulièrement des avis, est-ce qu'on vous laisse des avis, ou même sur vos offres en ligne, etc. Donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez regarder pour mesurer quelque part ce lien que vous avez finalement avec vos visiteurs et vos prospects, et est-ce que vous avez des choses bien en place pour développer ça. Et ensuite, on a donc la stratégie de conversion. Donc là, pour la stratégie de conversion, c'est comment vos clients achètent chez vous. Donc clairement, c'est d'aller mettre le nez dans votre process de vente. Et déjà, est-ce que vous avez un process de vente? Et bien évidemment, alors peut-être que vous n'êtes pas à l'aise pour vendre vos offres, mais du coup, est-ce que vous avez aussi des systèmes, des automatisations, des choses qui travaille pour vous, et qu'est-ce qui vous manque aussi du coup pour être plus efficace dans toute cette conversion? Est-ce que vous avez quelque part quelque chose qui travaille pour vous et qui fait des propositions commerciales entre guillemets à votre audience tous les jours? Je dis proposition commerciale, ça veut juste dire qui propose vos produits automatiquement. Est-ce que vous avez un système qui travaille pour vous? Si vous faites des appels découvertes, est-ce que vous avez un bon taux de conversion? Si vous avez des pages de vente, est-ce qu'elles sont à jour? Est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce que les gens cliquent? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Donc c'est vraiment regarder comment aujourd'hui mon client il achète avec moi. Est-ce que c'est un paiement automatisé et en ligne? C'est des choses que j'en parle souvent, notamment quand je parle des automatisations, etc. Donc je vous renvoie à tout ça. Là, l'idée, c'est un peu de regarder le truc en face et de se dire, est-ce que c'est clair finalement pour travailler avec moi? Ça peut être aussi de lister ou vous rappeler ou regarder un petit peu les objections peut-être que vous avez souvent à l'achat ou les questions que vous avez souvent, donc ce qui peut mettre le doigt aussi sur ah bah c'est pas clair ou le processus il est pas simple ou finalement les gens ils comprennent pas trop, voilà. Et donc ça peut vous permettre aussi de voir ce que vous pourriez améliorer dans votre processus de vente. Bon, j'irai pas plus loin sur cet aspect-là parce que en réalité si vous voulez travailler à la fois sur l'aspect découverte, sur l'aspect intérêt et sur l'aspect conversion, même sur l'aspect fidélisation qu'on va aborder après, clairement, c'est exactement tout ce qu'on travaille dans YogiBizLine. Hein. YogiBizLine, ça vous apprend justement à mettre tout ce business-là en place grâce à tous ces systèmes d'acquisition, de conversion, de fidélisation. Parce que moi, je travaille comme ça. L'idée, c'est de développer un business, pas juste de créer une offre et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez trouver dans YogiBizLine. N'hésitez pas à m'envoyer un MP si vous voulez rejoindre YogiBizLine. Il y aura peut-être quelque chose d'ici la fin de l'année, je ne sais pas encore, à suivre. Donc voilà, et on arrive à la fidélisation, donc le dernier pôle hein, de cette stratégie, enfin de ce bilan stratégique finalement. On a fait le bilan financier, le bilan des offres, on est dans le bilan stratégique avant de passer au bilan bien-être. Et donc notre dernier pôle, c'est le pôle fidélisation. Donc là, bah, clairement, hein, c'est voilà, comment, est-ce que vous avez quelque chose à proposer à vos clients, les clients qui travaillent avec vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez d'autres choses à leur proposer? Donc, est-ce que vous avez justement ce système de suite d'offres cohérente, ce next step à leur proposer après, c'est-à-dire bah, les gens qui viennent faire des cours avec vous? Est-ce que vous avez autre chose à leur proposer que bah, les cours de yoga, par exemple, en studio? C'est très bien, hein, la personne, elle vient avec vous, par exemple, à son cours tous les mardis et tous les jeudis, super. Mais probablement que cette personne, si vous offrez des ateliers, si vous offrez une retraite, si vous offrez un studio en ligne, etc., bah, il y a de fortes chances que peut-être que tout ça, ça l'intéresse. Et donc, du coup, bah, l'idée, c'est voilà, comment à la fois je les fais rester et revenir, mais comment aussi, du coup, je peux les amener plus loin en fait avec moi à profiter aussi de d'autres offres et puis bah, eux les faire évoluer aussi dans mes différentes offres. Comment je prends soin de mes clients aussi? Alors il n'y a pas d'obligation forcément hein, mais voilà, alors ça peut être effectivement en termes d'accueil etc. si c'est si vous êtes dans un studio, si vous êtes en ligne, ça peut être en termes de peut-être répondre à vos... Enfin voilà, comment vous répondez à vos clients, par exemple par mail ou autre. Ça peut être aussi, voilà, est-ce que vous avez des petits cadeaux clients? Il n'y a pas d'obligation, encore une fois, hein, mais voilà, c'est vraiment de réfléchir à tout ça. Donc comment vous prenez soin d'eux? Comment vous les faites revenir? Qu'est-ce qui se passe aussi dans votre processus? C'est-à-dire une fois que vos clients ont payé, qu'est-ce qui se passe dans votre processus? C'est un petit peu d'onboarding, comment vous les accueillez, quelles sont les étapes en fait après l'achat de votre produit. Et là, je pense notamment à tout ce qui est aussi produit en ligne. Voilà, est-ce que c'est clair la suite de la manœuvre, ce que j'ai à faire, où est-ce que je dois me connecter, qu'est-ce que je dois faire en premier, etc. Donc voilà, toutes ces stratégies en fait que vous avez pu mettre en place pour finalement prendre soin de vos clients à partir du moment où ils sont rentrés à minima une fois dans votre univers. C'est aussi vous poser la question de comment vous évaluez régulièrement ou ponctuellement hein, la satisfaction de vos clients. Est-ce que vous prenez le temps de faire des enquêtes clients, de demander des avis, des feedbacks, des retours? Alors, il y a les avis type témoignage voilà, à laisser sur Google, sur votre site, dans des petites vidéos, etc., qui vont servir derrière, finalement, à mettre en valeur et à promouvoir vos offres. Mais il y a aussi le feedback objectif, les boîtes à idées, les feedbacks voilà, de choses peut-être à améliorer, donc voilà, il y a tout ça aussi à prendre en compte. J'allais dire le Net Promoter Score, mais ça, c'est ce qu'on fait dans les grandes entreprises. Mais voilà, ça permet d'évaluer aussi la satisfaction d'ailleurs des employés. Mais voilà, c'est vraiment, est-ce que je prends soin quand même d'évaluer, encore une fois, soit ponctuellement, soit régulièrement, la satisfaction de mes clients? Après, donc, il y a la partie, effectivement, témoignage, plus dans le sens avis, etc. Ben, qu'est-ce que j'en fais? Voilà, il y a aussi bah, dans le cas où j'ai une réclamation, un litige ou autre, comment je le gère. Donc voilà, tout ça, c'est en prendre en compte jusqu'à effectivement la manière de fidéliser mes clients. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent dans une de mes offres? C'est quoi mon processus d'accueil, d'onboarding? Voilà, comment finalement ça se passe une fois qu'ils rentrent dans mon univers? Est-ce que je prends le temps effectivement de valider au fil de l'eau la satisfaction de mes clients? Est-ce que je prends soin aussi de récolter des avis, des témoignages et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je sais comment gérer s'il y a litige, contretemps, réclamation ou autre? Et enfin, eh bien, une fois que j'ai des clients dans mon univers, est-ce que et comment je les fidélise? Donc voilà, ça c'est... Alors, je vous ai dit dans le bilan financier, est-ce que vous avez la capacité de savoir combien un client en moyenne génère de chiffre d'affaires chez vous ou combien d'offres finalement il achète chez vous? Alors là, on est un petit peu dans quelque chose de plus poussé, hein, je le reconnais. Pas sûr que vous ayez du coup cette possibilité de mesurer tout ça. Par contre, c'est quelque chose que vous pouvez garder en tête pour essayer justement de mettre en place des choses qui vont vous permettre aussi de pouvoir venir analyser ça. C'est très intéressant. Donc c'est vraiment ouais, si vous avez pas ce suivi là, je pense que c'est vraiment intéressant de le mettre en place pour l'année prochaine. Voilà, donc j'en ai terminé avec cet aspect du coup stratégique, hein, découverte, intérêt, conversion et fidélisation. Et puis je vous propose qu'on termine du coup ce bilan avec le pôle bien-être. Donc ça c'est extrêmement important, hein, au-delà des choses très finalement factuelles et pragmatiques. C'est aussi à un moment donné de prendre le temps sur « et moi dans tout ça je me sens comment ?» Est-ce que je me sens bien avec ce business? Est-ce que je me sens en phase avec ce que je propose? Est-ce que j'ai toujours beaucoup de plaisir et pour quelles offres? Alors, on l'a un petit peu vu déjà, hein, quand on a travaillé sur le bilan des offres. Ou alors, est-ce que effectivement il y a des choses qui m'épuisent, qui me prennent beaucoup de temps, qui me satisfont plus? Si on me le proposait demain, je me désengagerais volontiers. Et donc, bah, c'est un peu de se poser la question, ok, comment du coup je peux investir moins de temps là-dedans? Comment éventuellement je peux arrêter telle offre ou tel projet ou telle chose? Comment sinon je peux le déléguer peut-être, ok? Donc c'est vraiment, voilà, comment je me sens avec tout ça et finalement comment... enfin voilà, qu'est-ce que je pourrais en faire pour bah, soit arrêter, soit déléguer, soit à l'inverse, hein, mettre encore plus d'énergie et y passer encore plus de temps parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Comment j'évalue tout ça? Comment j'évalue mon équilibre? Est-ce que j'ai suffisamment aussi de temps pour moi, pour me reposer, pour prendre soin de moi, pour mon self-care? Voilà, encore une fois, je vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, on est le cerveau de notre entreprise. C'est super important que nous, on soit bien dans notre énergie et dans ce qu'on fait pour que ça fonctionne, pour que ce soit aussi magnétique, plaisant. À la fois pour nous et à la fois pour notre audience, nos prospects, nos clients. Donc vraiment hyper important cette partie bien-être, de venir évaluer comment vous vous sentez, vous en tant que personne au milieu de tous ces résultats, ces chiffres, ces stratégies, etc. Donc, on arrive dans la dernière ligne droite de notre bilan. Maintenant qu'on a fait le point sur l'ensemble des pôles financiers, des offres, pôle stratégique, découverte, intérêt, conversion, fidélisation et pôle bien-être, eh bien, on va venir tirer des conclusions, finalement, des premières conclusions, des premiers apprentissages de ce bilan. Donc, ma suggestion ici, c'est déjà en deux colonnes pour chacun des pôles. Dans la colonne de gauche, de venir faire un constat de tout ce qu'on a pu constater. Un exemple de constat que vous pouvez faire, c'est, eh bien, toute l'année, je me suis fait rouler dessus par ma stratégie de contenu. J'ai pas réussi, par exemple, à prendre de l'avance sur ma stratégie de contenu, sur la production de mon contenu. Je manque de régularité. Ok, donc ça, voilà, ça peut être un des constats que vous avez fait. Et l'idée en face, c'est de vous dire, ok, ben, qu'est-ce que j'ai comme solution? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place objectivement pour retrouver cette régularité? Donc, par exemple, hein, ça peut être remettre en place un créneau de batching. Ça peut être limiter ma consommation de contenu des autres. Là, je fais directement un lien avec la newsletter que je vous ai envoyée sur mon bilan après 3 jours sans Instagram. Mais très clairement, je pense que quand on est trop dans la consommation du contenu des autres, ça vient vraiment nous jouer des tours sur notre propre créativité et couper un petit peu avec tout ça et soit réfléchir à ce qu'on a envie de partager, à ce qu'on a masterisé, à comment on sent et voilà, enfin tout ce qu'on peut partager avec les autres. Souvent en fait c'est le contenu qui va être le plus authentique, le plus pertinent et le plus magnétique. Donc voilà. Pourquoi j'ai manqué de régularité dans mon contenu cette année? Si c'est l'un des constats que vous faites, peut-être que la solution, c'est que vous avez eu un problème d'inspiration ou vous avez un problème de stratégie ou vous avez eu un problème effectivement de motivation. Et donc, quelque part, vous pouvez déjà peut-être amorcer quelques idées, quelques solutions, quelque chose, choses que vous aimeriez mettre en place ou faire différemment l'année prochaine. Donc ça, c'est déjà un premier bilan, une première étape finalement de la conclusion de ce bilan que vous pouvez faire. Et la dernière étape, ça va être un petit peu lié à la méthode KISS que je vous ai partagée en newsletter. Donc la fameuse méthode KISS, c'est en anglais, c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'améliore, qu'est-ce que je supprime et finalement qu'est-ce que je commence à faire ou qu'est-ce que je commence à mettre en place. Donc là, je vais un petit peu la modifier pour clôturer ce bilan, mais l'idée, c'est toujours par pôle, de faire une liste de à la fois ce que vous pouvez garder et amplifier parce que ça fonctionne. Une deuxième colonne sur qu'est-ce que vous pouvez améliorer, donc là où vous avez identifié qu'il y a des trous ou des choses à faire. Et une troisième et dernière colonne sur ok, qu'est-ce que j'abandonne, qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que je reporte, qu'est-ce que je délègue éventuellement aussi. Alors du coup, si c'est quelque chose à déléguer, vous allez peut-être mettre ça dans à améliorer pour le coup. Mais voilà, donc 3 colonnes, qu'est-ce que je garde et j'amplifie parce que ça a bien marché, parce que ça me plaît, parce que j'ai des résultats, etc. Colonne du milieu, donc qu'est-ce que j'améliore, parce que là clairement il y a des trous, il manque des choses, je peux encore aller plus loin par rapport au bilan que vous venez de faire. Et enfin, qu'est-ce que vous supprimez, vous reportez, vous arrêtez, vous déléguez, tout ce qui soit vous voulez plus investir d'énergie là-dedans, soit ça vous prend trop de temps et en plus les résultats sont pas flagrants. Soit vous avez d'autres projets et du coup vous voulez supprimer des choses pour vous consacrer à un autre projet, comme par exemple supprimer tel cours de yoga pour commencer à créer pourquoi pas votre programme en ligne. Donc voilà, encore une fois, on fait cet exercice également par pôle, donc je prends d'abord le pôle financier. Ça a été quoi mes conclusions? Et donc, je viens classer ça là-dedans. Pareil pour mes offres, pareil pour toute ma stratégie. Donc, vous le faites par pôle. Donc, découverte, intérêt, conversion, fidélisation. Par exemple, pôle visibilité. Donc, la question était comment je me rends visible, comment je me fais connaître auprès de nouvelles personnes chaque jour. Eh bien, peut-être que vous allez en venir à la conclusion que le podcast, souvent, vous avez des retours comme quoi on vous a écouté, on a adoré votre épisode, ça a été super utile, les gens ont commencé à se mettre à l'action, etc. Peut-être que à l'inverse, vous n'avez pas du tout d'interaction ou pas du tout de clics ou il y a moins d'engagement sur YouTube. Et du coup, vous dites « Ok, l'un et l'autre, c'est un contenu principal finalement, je n'en garde qu'un. » Ici aussi, on va peut-être avoir Instagram justement. Voilà, j'ai besoin d'être plus régulière. Clairement, c'est normal. Voilà, mon nombre d'abonnés il se développe pas ou j'ai pas assez d'interactions avec ma communauté, etc. Mais en même temps, je publie une story quand j'ai le temps. J'ai pas de stratégie dans mon contenu. J'ai besoin de travailler ça. Pour l'intérêt, donc, encore une fois, je rappelle, c'est comment je maintiens le lien, finalement, comment je crée du lien avec les personnes qui me découvrent. Et par exemple, je peux prendre un exemple récent que j'ai eu sur une cliente de YogiBizLine. J'ai pas de stratégie d'emailing. Effectivement, à partir de là, clairement, ça va être le point à améliorer l'année prochaine. Ça va être de définir une stratégie d'emailing. pôle conversion. Comment est-ce que on arrive comment est-ce qu'on achète chez moi? C'est vrai qu'il n'y a rien d'automatisé. À chaque fois, je dois envoyer un RIB ou on doit me faire un virement ou alors, les gens, faut qu'ils me contactent par mail pour que je leur propose mes offres, etc. Peut-être que là où je vais devoir travailler l'année prochaine, c'est sur définir un process de vente clair pour, par exemple, mon studio en ligne. Et idem pour le pôle fidélisation. Comment est-ce que je fidélise mes clients et ainsi de suite, jusque donc au pôle finalement bien-être qui viendra conclure cette première étape du bilan. Une fois que vous aurez fait tout ça, probablement, alors évidemment, je vous invite à avoir un bon thé chaud, une bonne bougie, du temps devant vous. Vous faites ça, que ce soit informatiquement, sur un cahier, etc. Peu importe, je pense qu'il faut vraiment en faire un moment aussi agréable de ce bilan. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me le partager, j'en serais ravie. Mais effectivement, une fois déjà que vous vous serez posé toutes ces questions, même si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, même si vous n'avez pas su rentrer dans tous les détails, même si vous n'avez pas su tout décortiquer, analyser, eh bien, quoi qu'il en soit, c'est certain que vous aurez déjà un petit peu plus de clarté. Vous aurez là une vraie vision sur ce qui s'est écoulé, sur ce que vous avez fait, parce qu'on a tendance, franchement, à oublier beaucoup de choses. On a tendance aussi à pas tout le temps aller mesurer les résultats de ce qu'on met en place, des actions qu'on met en place, à se faire un petit peu rattraper par le quotidien. Donc, c'est aussi l'occasion quand même de prendre un petit peu de hauteur et d'avoir un petit peu cette vision macro sur notre... Alors, assez micro finalement pour certains aspects, mais cette vision macro de prendre du recul. Et en tout cas, effectivement, la clarté que ça va amener, elle est complètement nécessaire pour du coup passer à la planification de l'année suivante qui finalement devrait être assez fluide et assez simple et évidente, j'ai envie de dire, une fois qu'on a fait finalement ce plus gros travail de bilan. Voilà. Donc, ça fait une heure que je vous avais dit, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être fait en masterclass et en atelier. Je suis ravie d'avoir pu vous faire profiter de ça grâce à un épisode de podcast. Je pense que là maintenant, clairement, vous avez compris, c'est à vous de jouer. Donc moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à partager l'épisode dans vos stories pour me dire que vous allez faire votre bilan, quand est-ce que vous allez faire votre bilan, ou mettre une note, un avis sur cet épisode. Vraiment, j'adore avoir vos feedbacks, et j'en ai besoin, et ça me fait du bien aussi. Et du coup, je vous invite à finaliser cette première partie bilan, et on se retrouve donc dans l'épisode qui suivra la semaine prochaine pour venir planifier cette fois-ci votre prochaine année. YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.